Actu SF, les podcasts.
Eh bien, nous sommes tous là. Nous allons avoir deux auteurs, ce qui va nous permettre de bien les faire parler autour de ce sujet de l'Uchronie, sujet ô combien riche s'il en est. Mais alors, je vais faire une toute petite entorse pour démarrer, parce que j'ai laissé traîner mes oreilles là pendant que Christopher Priest et Lionel Davoust s'installaient. Et j'entendais Lionel poser la question de savoir s'il y avait un équivalent au mot Uchronie en anglais, et j'étais très surpris d'entendre que si le concept lui est assez international, le mot en lui-même n'a pas vraiment d'équivalent.
Alors en fait Uchronie, donc oui effectivement c'est un mot qui n'existe pas en anglais, on dit plutôt parallel history, qui est donc histoire parallèle en gros. Puis en fait Uchronie c'est une construction grecque, ce qui est basé sur utopie, donc l'utopie c'est utopos, le privatif de topos, donc c'est le lieu qui n'existe pas. Uchronos, c'est le privatif du temps, c'est le temps qui n'existe pas.
Voilà pour la petite précision. On va pouvoir entrer maintenant dans le vif du sujet et s'intéresser. Justement, tiens, Christopher, on vous connaît bien comme auteur de science-fiction, comme concepteur de mondes imaginaires. Est-ce que l'histoire est un terrain de jeu qui vous intéresse ? Don't say absolutely not.
Can you hear me? Whenever I come to Epinal, I always have this question about Uchronie. And to me, it's always interesting because I think...
A little near.
Although it's dangerous...
Un petit peu plus près.
Hello.
Yes, better.
It's dangerous to generalize. But it seems to me that in France, and there's different... feeling about Uchronie from the way British and American writers treat it. As I say, this is a generalization and it's dangerous to do that, but this is nevertheless how I feel. It seems to me, Christophe just said, it's a playing field, something to play around with. I take it really seriously. I never see it as something to play with. I see history as being basically a convergence of events. And it's like a great river, which you can dam and move the course of, but the general flow of the river remains. And it's not a playground. It's a way of examining, for me, some of the decisions of history or some of the events which lead into history or mistakes which have been made in history. And then by presenting the alternative, it's a narrative on those mistakes, that history. So, not a playing field.
Alors, chaque fois que je viens à Épinal, en fait, je suis fréquemment appelé à parler d'Uchronie et on me pose toujours cette question et je trouve ça toujours intéressant. Alors, c'est dangereux de faire des généralisations, mais j'ai l'impression qu'en France, la manière dont on l'aborde, le sentiment qu'elle procure est assez différent de la manière dont les Anglais et les Américains le font. Donc, encore une fois, c'est une généralisation, donc c'est dangereux de faire des généralisations, mais c'est la manière dont je le ressens. Et donc Christophe parlait d'un terrain de jeu, d'un terrain avec lequel on peut jouer. Pour ma part, je la prends très très au sérieux. Pour moi, c'est pas du tout un matériau avec lequel jouer. L'histoire, c'est une convergence d'événements, c'est un peu comme une rivière, on peut la détourner, on peut mettre des barrages dessus, mais globalement, le flot général reste. Donc pour moi, c'est pas un terrain de jeu, c'est une manière d'examiner les événements, d'examiner ce flot, comment certaines décisions et parfois comment certaines erreurs ont été prises, et la manière de proposer des histoires parallèles ou différentes, c'est aussi la manière dont on peut étudier ces décisions ou ces erreurs.
Prends ça, Johan Elliott. Johan, j'imagine que ce que tu viens d'entendre, ça te fait réagir forcément.
Oui, alors, mais je partage quand même pour partie ce point de vue, mais pour partie seulement. C'est vrai, et là je pense que je peux parler au nom de la plupart de mes collègues d'Uchronie français. souvent quand on se retrouve en débat, on finit toujours par se retrouver autour de la notion de jeu. Effectivement, pour nous, c'est un, on revendique la pratique de l'Uchronie comme un jeu. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le fait pas sérieusement. Et je souscris au point de vue qui veut que malgré tout, le flow général, le cours général de l'histoire n'a pas le droit forcément de dévier de façon trop radicale. Dans mes propres livres, pourtant, même si je vais intégrer des choses complètement abracadabrantes, il y a quand même des extraterrestres dans mes uchronies. On est quand même loin de juste faire dévier un tout petit peu le cours de l'histoire. Mais malgré tout, malgré leurs interventions, les grands événements tels que nous avons connus perdurent. Ils sont altérés, ils sont modifiés, mais ils ne disparaissent pas complètement. Je pense que malgré tout, les grandes tendances de l'histoire perdurent, quels que soient les accros qu'on peut donner apporter à la trame de la réalité.
Alors, c'est un genre que tu connais bien, puisque dès tes premiers livres, hein, finalement, oui, tu étais déjà dedans, avec la trilogie de la Lune en particulier. On peut le dire, c'est pas un secret, Stéphanie en parlait encore hier. Tu as été professeur d'histoire, donc il y a quand même aussi une attirance naturelle, on va dire, vers ce domaine-là.
Oui, c'est vrai. Alors, bon, j'ai été modestement professeur d'histoire dans le secondaire, et d'ailleurs, pour moitié d'histoire et pour moitié de littérature. J'ai jamais voulu trancher sérieusement entre les deux. Mais au préalable, c'est vrai que j'ai poursuivi des études d'histoire. Enfin,
tu les as rattrapées ?
Celles-ci, voilà, j'allais dire plutôt, celles-ci m'ont poursuivi jusqu'à un certain point. Et je m'étais spécialisé d'ailleurs dans l'Antiquité romaine, parce que tout jeune, j'ai toujours adoré les films de gladiateurs ou de légionnaires romains, les péplums entre autres. Voilà. Ce qui explique que par exemple, mon deuxième roman, Reconquérant, raconte pour partie comment une légion romaine qui a dû fuir le vieux monde, le bassin méditerranéen, qui de fil en aiguille va se retrouver à conquérir le nouveau monde, va développer une civilisation complètement moderne, donc dans cet endroit qui ne peut pas s'appeler l'Amérique, et va revenir ensuite tenter de reconquérir l'ancien monde. Enfin voilà, tout ça, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, je m'égare. Au moment de mes études, voilà, je me suis très vite passionné par les mondes. J'étais très passionné par les mondes de l'Antiquité parce que ça réveillait chez moi certaines images un peu magiques d'enfance. Voilà, j'ai toujours eu un rapport vraiment quand même, ouais, complètement infantile, si je puis dire, mais ludique. On y revient quand même. Avec l'histoire, voilà. Je l'enseignais sérieusement quand même à mes élèves. De toute façon, on n'est pas le droit là, du coup, de sortir des rails de l'histoire. On se faisait taper sur les doigts, sinon. Et d'ailleurs, peut-être que ça m'a frustré et que ça explique que je me suis lâché dans mon premier roman, La Lune seule le sait, qui lui se déroulait au 19e siècle. C'était pas complètement un hasard parce que l'essentiel des programmes scolaires que je devais enseigner était focalisé sur le 19e siècle, les révolutions industrielles, etc. Donc je pense que je me suis vengé un petit peu du côté trop sérieux de ce que je devais apprendre à mes élèves dans ce premier roman.
D'ailleurs, grâce à toi, moi je ne vois plus Blaise Pascal de la même manière.
Ah, maintenant,
on y reviendra, mais c'est vrai qu'il prend un vrai coup de jeune d'un seul coup.
Et
Christopher Priest. On vous connaît pour une uchronie qui s'appelle La Séparation, qui a pour pivot alors une date essentielle qui est le 10 mai 1941, où on se rend compte que, dans le livre en particulier, alors ce n'est pas un événement, c'est un faisceau d'événements qui se déroule cette journée-là. Le plus célèbre, tout de même, c'est la fuite. Le départ d'Allemagne de Rudolf Hess, qui était un des principaux bras droits d'Adolf Hitler, qui prend un avion et qui s'envole vers l'Angleterre, où on dit que peut-être il serait venu négocier une paix avec l'Angleterre. J'imagine effectivement que c'est un événement particulier pour un Britannique comme vous l'êtes. Parce que finalement, le pivot aussi, c'est que ça arrête la Blitzkrieg. ça arrête, ça libère l'Angleterre finalement de la pression guerrière qui reposait entièrement sur elle, en tout cas sur le front ouest.
Yes and no. First of all, about this playing with history, let's get back to that. I think literature and fiction are for fun. They're to be enjoyed. They're not to be sermons or lectures. And therefore, I every great respect for that. I'm not trying to say that's not good. All I'm saying is there's a slight difference in approach. And I was going to say about the... I don't really want to talk about La Séparation.
It's my mind.
Because authors always do, and it's tiresome. But I was talking about... It's about the fall of Nazi Germany. And there have been several books and films and articles postulating the idea that the Nazis somehow won the Second World War and that Hitler's plans prevailed. And then into the present age, Nazism was in effect throughout Europe. My historical reading is that Nazism was essentially a very weak form of government, that it depended entirely on violence and threat and murder, and that it couldn't sustain itself. It was essentially going to fall no matter what. And that in many ways, the events of the Second World War with the bombing of the German cities and the invasion of France from Britain to were probably premature. If we'd waited, that it would have fallen apart. On the other hand, the Holocaust would have continued. And that is another question. Although, at the time, Britain and America knew little of the Holocaust and cared less. So the invasion of France to liberate Europe was not motivated by Auschwitz or anything like that at all. It was a kind of, I don't know, it's something very unpleasant about it. I'm anti-war, I'm against all war, and I think the idea of the separation was that peace, there was a window, as Christoph was saying, there was a window in May 1941, just a tiny little period in which peace between Britain and Germany was possible. And so that's what the novel's about. Let's see what happened. In fact, it doesn't change anything. Hitler doesn't win the war. The Nazis, Hitler is deposed and the Nazis continue, and that's where the book ends. But I was going to say one of the great threats of Nazi domination in Europe would be that these days we'd be driving Volkswagens and BMWs and Audis and so forth. And we won the war, so we don't have any Volkswagens or Audis. Or
La réponse à la question, oui et non. Alors d'abord, je voudrais revenir sur la notion de jeu avec l'histoire. Je pense que la littérature et la fiction, c'est fait pour être amusant et c'est fait pour qu'on prenne du plaisir à le lire. C'est pas un sermon, c'est pas une leçon, etc. Je respecte évidemment beaucoup l'approche ludique avec l'histoire. Alors j'ai pas tellement envie de vous parler de la séparation parce que je vous retrouve toujours à en parler et je trouve que ça devient gonflant à la longue. J'ai envie plutôt de vous parler de la chute de l'Allemagne nazie. Parce qu'il y a eu plein de livres, plein d'articles, plein de films qui ont été faits sur l'hypothèse que les nazis, supposons que les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale, et postulent qu'on se retrouvera à l'ère moderne avec toujours un régime nazi et les nazis dominant l'Europe. Mais ma lecture de l'histoire, c'est qu'en fait, les nazis, c'était un régime extrêmement faible, qui était fondé sur la violence, sur les menaces, sur le meurtre. Et je pense pas que c'était un régime qui aurait pu se soutenir. Je pense qu'il était voué à s'écrouler quoi qu'il arrive. Alors, après, il y a un certain nombre d'événements qui ne se seraient peut-être pas produits, en tout cas aussi vite. Je pense que, voilà, l'invasion, le débarquement, les bombardements des cités allemandes ont conduit et ont aidé, évidemment, bien sûr, à cette chute. Ce qui se serait probablement produit si ces événements ne s'étaient pas produits, c'est que eh bien, malheureusement, évidemment, l'Holocauste se serait poursuivi. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'Angleterre et les États-Unis en savaient très peu sur la réalité de l'Holocauste. Et en fait, le peu qu'ils savaient, ils s'en fichaient finalement pas mal. Et l'invasion et le débarque, pardon, l'invasion de la France, c'est le terme anglais, mais le débarquement n'a pas été motivé par Auschwitz et par toutes ces choses-là. Donc, évidemment, c'est horrible. Et quand on y pense, en ce qui me concerne, moi, je suis profondément anti-guerre, je suis contre toutes les guerres. L'idée de la séparation, c'est qu'il y a une minuscule fenêtre en mai 41 où, pour ce petit temps, il y aurait pu y avoir une paix séparée négociée entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et le roman parle de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé. Et en fait, une des leçons du roman, c'est que finalement, ça ne change rien. Hitler s'écroule quand même, l'Allemagne nazie s'écroule quand même. Voilà, si on pense à ces choses-là, si jamais ça veut durer plus longtemps, une des grandes menaces peut-être de l'Allemagne nazie, si elle avait perduré et qu'on se serait retrouvé aujourd'hui, c'est qu'on se retrouverait tous à conduire des BMW, des Audi, des Volkswagen. Et évidemment, on sait bien que ça ne s'est pas produit.
Johan, moi, il y a toujours un truc que je me demande quand je lis une uchronie, c'est tiens, comment vient l'idée du point de rupture, justement? Et comment est-ce que, bah voilà, d'un seul coup, tu te dis, tiens, il y a tel événement, je pense, sans me souvenir qu'il y a une uchronie où la famille royale française échappe à la Révolution en s'envolant dans un ballon.
Tout à fait, oui, oui. Alors, non pas que j'ai des sympathies particulières pour la royauté, encore que, enfin, frère Prétou, devant un Anglais,
Mais, surtout en ce moment.
Mais voilà. Oui, voilà. Là, j'avais imaginé effectivement que Louis XVI, Marie-Antoinette, le dauphin, accompagné de Lafayette et d'un ingénieur en aéronautique de l'époque, un monsieur qui s'appelait Jacques Charles, qui a vraiment existé, qui est un peu le rival des frères Montgolfier. J'imagine que tous ces gens-là se sont envolés en ballon, au nez, à la barbe des révolutionnaires qui voulaient donc leur couper la tête. Alors, comment ce genre de drôle d'idée me vient? En fait, quand je construis ce genre d'histoire, je ne pars pas du point de divergence, je pars de l'envie de m'attaquer à de grandes figures historiques ou à une époque que l'on connaît ou qu'on croit connaître. Je commence un petit peu à fouiller dans de la documentation et je dirais au bout d'un moment, c'est en accumulant un petit peu des informations sur les personnages, la vie quotidienne, enfin des fois des petits faits, que finalement un point de divergence finit par s'imposer. Mais je ne vais pas construire mes uchronies justement sur le basculement. Le basculement est là, il n'est pas au centre de l'intrigue en fait.
Parce que finalement, on retrouve dans la dernière série en date, Grand Siècle, parce que quand on lit le premier tome, alors, on est dans une France alternative, on va dire, parce qu'il s'y passe des choses étranges dans ce 17e siècle.
Oui, alors, encore...
Mais on n'est pas vraiment encore dans une uchronie
non,
à proprement
justement,
parler.
Justement, dans Grand Siècle, alors là, je vais explorer tout le règne de Louis XIV, donc le plus grand règne de l'histoire française. Et là, le point de départ de cette idée, c'était... Un jour, je me suis amusé à constater, alors ce qui a priori n'a pas plus d'intérêt particulier que ça, que la durée du règne de Louis XIV, en gros une soixantaine d'années, c'est à peu près le même temps qui a séparé les premiers essais de vol des frères Wright aux États-Unis avec un avion en papier, en toile, qui a juste volé sur quelques mètres, et le premier pas sur la Lune, en gros une grosse soixantaine d'années. Et je me suis dit, imaginons que grâce à un petit coup de pouce extraterrestre, pour le coup, parce qu'il faut quand même bien impulser la technologie au départ, imaginons que grâce à un petit coup de pouce, sur cette même durée, mais deux siècles et demi plus tôt, sous le règne de Louis XIV, on se soit lancé dans une forme de conquête spatiale. À partir de là, mon projet a été de montrer comment on va passer de la vraie réalité, dans le tome 1, on est vraiment dans le vrai milieu du XVIIe siècle, ça commence, on est en plein dans la fronde, enfin la fin de la deuxième fronde, qui a traumatisé le jeune Louis XIV, on va voir comment il va s'émanciper de la tutelle et de sa mère et de Mazarin, etc. Enfin là, j'ai vraiment respecté complètement la réalité historique. Le seul événement uchronique, le seul événement enfin, de science-fiction au milieu, c'est que une intelligence artificielle d'origine extraterrestre s'écrase un moment sur Terre, est amenée comme un objet de curiosité devant Louis XIV, comme on aurait pu lui présenter n'importe quelle invention nouvelle, ce qui était le cas à l'époque. Et il va y avoir une rencontre qui va s'effectuer entre Louis XIV et cette intelligence artificielle. Et de fil en aiguille, l'intelligence artificielle va convaincre Louis XIV de se lancer dans ce projet de conquête spatiale, dans son propre intérêt à elle, puisqu'il s'agit de regagner le vaisseau qu'elle a dû quitter, etc. Enfin, voilà. Mais ça reste caché à la population. Les vrais intérêts de cette intelligence artificielle et du roi restent cachés. L'histoire va simplement diverger, puisqu'à partir d'un moment, Louis XIV ne va pas se lancer dans la construction de Versailles, etc., mais va consacrer tout son pouvoir et tout son argent, enfin tout l'argent du royaume, à ce projet de conquête spatiale. Il va s'associer à un des plus grands génies scientifiques de l'époque, Blaise Pascal.
Qu'on évoquait tout à l'heure.
Voilà, alors, parce qu'il faut savoir que Blaise Pascal, avant d'être le penseur très... rigoureux, pas très rigolo, qu'on nous apprend encore aujourd'hui à connaître, c'était vrai, il était ça, mais avant, parce qu'il est devenu ce philosophe austère qu'on connaît, après avoir failli mourir dans un accident de voiture, de voiture à cheval, et qu'il l'avait traumatisé. Et avant ça, c'était un jeune inventeur de génie, il a inventé les premières machines à calculer, les pascalines, il voulait se lancer dans les affaires, simplement, en revanche, il était très mauvais commercial, et ses affaires capotaient. Il avait créé un peu l'ancêtre de la RATP, la compagnie des carrosses à 5 sols, il avait inventé une ligne de carrosses publiques qui circulaient dans Paris. Enfin, voilà, c'était un jeune entrepreneur qui aurait plu à notre président actuel. Voilà, complètement.
Un start-upper.
Complètement. C'était tout à fait ça, le jeune Pascal. Sauf qu'il n'avait pas de chance. Ça foirait lamentablement ses affaires. Voilà. Mais c'était un vrai génie des mathématiques, etc. Et donc, comme il est plus ou moins l'ancêtre des machines à calculer, donc des ordinateurs, voilà, il va impulser les débuts d'une révolution technologique qui va permettre d'arriver au bout de quelques dizaines d'années à développer des machines à calculer, donc des pseudo-ordinateurs qui vont permettre de fabriquer les machines qui vont permettre de s'extraire de la gravité, enfin bref, et de commencer la conquête spatiale. J'ai été long, mais...
Non, mais profitons-en, hein. On a de la place et du temps, donc il n'y a pas de souci. Christopher Priest, justement, ces histoires alternatives, ces histoires parallèles... Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, pour faire passer certains messages, pour nous lancer quelques avertissements à nous qui avons parfois la mémoire un petit peu courte?
We're going through a uchrony at the moment, which is Brexit. It's which, as far as I'm concerned, is an unmitigated disaster. Mostly for Britain, but also for Europe. And already I'm trying to imagine what life is going to be like from next year. For instance, this is the last Epinal I can be at as a European citizen. Au revoir. You know. But I'm a profound Remainer, as they say in Britain. I want Britain to stay in the European Union. I have a vestige of a hope that it's still possible in spite of everything. But I'm also thinking, well, there's a Ukraine. What would it be like if we did remain? Would what would happen to Europe, who is now ready for Britain to go? No, it's all going on. I'm sure 10 years from now, there will be novels about Brexit and its impact. It's of... in my view, of major historical consequence. It's not a minor event at all. If Greece had left the Union 2 or 3 years ago, okay, that's sad. But Britain leaving is huge, and it's huge, not, as I say, not just for Europe, for Britain, but also for Europe. And if you want to talk to me about my vestige of hope, I will tell you what it is, but I have not time for it now. I was going to say about Pascal. Didn't he write a great computer language?
Est-ce que Pascal n'a pas écrit un grand langage informatique? Oui, la question c'est, est-ce que Pascal n'a pas écrit un langage informatique? Le Pascal.
Je peux juste dire, parce qu'il y a quand même, une phrase, il y a une phrase qui vaut la lecture simplement du roman, c'est Louis XIV disant,
je le dis,
l'éther c'est moi. Alors, je suis désolé, c'est intraduisible pour Christopher, mais mais voilà, rien que pour ça, lisez le livre.
Donc, nous vivons une uchronie en ce moment même, et cette uchronie, ça s'appelle le Brexit. En ce qui me concerne, je trouve que c'est un désastre sans précédent, évidemment pour la Grande-Bretagne avant tout, mais aussi pour l'Europe. Et je peine à imaginer à quoi la vie va ressembler à partir de l'année prochaine, par exemple. Là, c'est les dernières imaginales où je viens en tant que citoyen européen. Donc, au revoir. Je suis un profond remainer, je suis un profond partisan du fait de rester dans l'Union européenne. J'ai encore un vestige d'espoir que malgré tout peut-être ça puisse ne pas se faire, mais on vit clairement une chronique. Que se passerait-il pour l'Europe si jamais, donc là l'Europe est en train de se préparer au Brexit, que se passerait-il si jamais la Grande-Bretagne n'avait pas voté le Brexit? Et je pense que dans 10 ans on aura des romans là-dessus, sur l'impact du Brexit. Je pense que c'est un événement de conséquences historiques majeures, c'est pas mineur du tout. Si la Grèce avait quitté l'Union européenne il y a 2 ans, alors bien sûr ça aurait été terrible et triste, mais je pense que ça aurait pas été aussi vaste. Alors si vous avez envie, si on a le temps, je sais pas, là j'ai pas trop le temps, si vous voulez je peux vous parler de mon vestige d'espoir et à quoi il tient. Mais
pas de souci, on a encore un petit peu de temps.
The Irish border problem is basically unsolvable. There is no middle ground. It's one way or the other, and either way is disaster. And my hope is that once this is accepted by both sides, that Brexit will just collapse, and that'll be the end of it. But it's only a tiny hope.
Alors, mon minuscule espoir repose sur le problème de la frontière irlandaise, qui est un problème, pour ainsi dire, insoluble. Il est absolument insoluble. Il n'y a pas de façon de le résoudre dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas de moyen terme. Ce sera forcément ça ne plaira clairement pas à l'un des deux côtés. Et une fois que les deux côtés se rendront compte de ça, j'ai l'espoir que le Brexit finalement s'effondrera sous son poids et qu'on oubliera l'idée. Mais c'est un minuscule espoir.
The problem is Ireland would have a land border. Northern Ireland would have a land border with Europe. That's okay. Now, one of the things that will follow, if Brexit does happen, in spite of what I've just said, almost certainly Scotland will eventually declare independence and apply to rejoin the European Union. If they do, there's going to be a land border between Scotland and Europe, and between Europe and England. And I see a future in which Hadrian's Wall will suddenly be working again.
Alors en fait, le problème avec, pour être plus précis, le problème avec la frontière irlandaise, c'est que si jamais le Brexit, malgré tout ce que je viens de dire, si jamais le Brexit se fait, il y aura une frontière terrestre entre la Grande-Bretagne et l'Europe, en Irlande. Via l'Irlande, donc. Donc, bon, ça, pourquoi pas. Mais si jamais le Brexit continue, il est quasiment probable que l'Europe déclarera l'indépendance. Ça veut dire qu'il y aura une deuxième...
L'Écosse.
Il y aura une deuxième frontière terrestre entre l'Europe et l'Angleterre. Et ça devient pas jouable, et ça veut probablement dire, à ce moment-là, que le mur d'Adrien va ressusciter de ses cendres.
Christopher... vous avez une filiation littéraire, et on l'a encore entendu tout à l'heure dans votre déclaration autour de la question du pacifisme, avec Herbert George Wells. Promis, c'est la dernière question sur la séparation. Est-ce que la séparation, c'est pas la rencontre entre Wells et Philip K. Dick?
Christ. I thought of that. I can't answer that because I don't know. I'm sorry, never occurred to me. I know what you're talking about, but the Wellesian influence for me is very important. Basically, modern science fiction is dominated by American fiction, but it was largely created by European writers, Jules Verne and H.G. Wells. And I'm British, and so I gravitate towards Wells. And about 5 years into my writing career, I started to feel really uncomfortable about the idea that I was working in an idiom which was not natural, which was the American journalistic narrative, kind of technologically based fiction. It felt unnatural to me. I started thinking about Wells, and he wrote all his great novels. There's 5 or 6 great scientific romances which he wrote at the beginning of his career when he was a young man. And by coincidence, that was roughly the age I was at when I was having these thoughts. And I suddenly thought, what I'd like to try and do is reinvent science fiction mentally, as if the Americans had never done anything, and that it was a essentially descended from the work of Wells. I've always tried to maintain that ever since. It's not a great claim. It's a kind of a modest assessment, really. Wells is mighty. He was probably one of the most famous authors in the world for a long time, and very, very important. And the American tradition is based largely on imitation. And it's because it's generic fiction, people would copy the previous stories they read, and it would develop generic rules. The weird and the really amazing thing is that when the American pulp magazines began, what they published mostly was old stories by H.G. Wells, and that's what they imitated.
La vache, je sais pas, ça m'est jamais, je vois ce que vous voulez dire, mais ça m'est jamais vraiment venu à l'esprit. Je sais pas tellement comment vous répondre, à part vous dire que Wells est bien sûr très 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 important pour moi. En fait, la science-fiction moderne, elle est principalement dominée par la fiction américaine, mais la science-fiction, elle découle d'auteurs principalement européens, c'est-à-dire Wells et Verne. Alors, comme je suis anglais, évidemment, j'ai plus tendance à avoir d'affinité avec Wells. Mais en fait, après avoir commencé ma carrière, 5 ans après avoir commencé ma carrière d'auteur, j'ai réalisé qu'en fait, je travaillais dans une langue et dans un domaine dans lequel j'étais en un sens pas un locuteur natif. C'est-à-dire que la science-fiction américaine avait cette espèce de style un peu journalistique et technologique sur lequel cette fiction se basait, et qu'en fait, moi, c'était pas vraiment le genre ou le courant qui m'était naturel. Et j'ai commencé à repenser à Wells, et il a écrit 5-6 grands, vraiment très grands romans, très grands monuments, très grands romans scientifiques, comme on disait à l'époque. Et il les a écrits plus ou moins quand il était assez jeune, et c'était l'âge que j'avais plus ou moins, en fait. Et donc, depuis, je me suis efforcé, en fait, de réinventer la science-fiction intérieurement, mentalement, comme si les États-Unis n'étaient jamais passés par là, en fait. Et je me suis efforcé de garder effectivement cette filiation avec Wells et de maintenir cette espèce de continuité. Ce qui a l'air d'être très, très pédant et en fait, c'est pas du tout une grande prétention de ma part. Au contraire, c'est très modeste. C'est rendre à Wells ce qu'il est, parce que Wells est un immense géant. Probablement à l'époque un des auteurs qui était connu mondialement et qui était le plus connu. Et en fait, les États-Unis se sont mis à imiter, parce que les États-Unis composent beaucoup par imitation. En fait, ils reprennent ce qu'ils ont lu et reprennent et imitent et reconstruisent pas dessus, mais c'est quand même beaucoup une littérature d'accrétion, en fait. Et ils copient ce qui s'est produit avant et construisent comme ça. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, quand l'industrie d'Apple a commencé aux États-Unis, tout ce qu'ils faisaient, c'était republier des vieilles nouvelles de Wells. Et en fait, la science-fiction s'est construite par imitation là-dessus, la science-fiction américaine.
Je t'en prie.
Juste, si je peux me permettre, bien que français, j'ai toujours préféré Wells à Verne, et je trouve beaucoup plus génial que... Voilà.
Johan, la particularité, alors... L'Uchronie en soi est un sous-genre de la science-fiction, puisque on considère finalement que l'histoire est une science et que donc on joue avec une science. Il n'empêche que dans tes Uchronies, régulièrement, il y a des archétypes de pure SF, tu en parlais tout à l'heure, c'est souvent la présence d'extraterrestres. C'est quelque chose aussi qui est important pour toi, qui est un peu ce mélange des genres.
Oui, c'est vrai. J'ai jamais écrit de pure uchronie. Enfin, c'est autant que le genre puisse exister, mais qui serait resté juste dans dans le cadre de la réalité, enfin, d'une forme de réalité, du moins. J'ai toujours intégré des éléments de science-fiction, voilà, intelligence artificielle, invasion extraterrestre et autres. Bah, tout simplement parce que, comme ça, c'était les premiers livres que j'ai écrits, je crois que quand on commence à écrire, on a envie de mettre tout ce qui nous a formés Moi, j'ai voulu mettre dans ses premiers écrits, en l'occurrence La Lune seule le sait, tout ce qui m'avait formé comme jeune lecteur, comme jeune passionné de science-fiction. Donc, je ne me suis pas contenté d'une uchronie. Enfin, il me manquait quelque chose. Je voulais qu'il y ait également le décorum de la science-fiction, donc des vaisseaux extraterrestres, donc des créatures extraordinaires, etc. Voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et quand je réfléchis, à la façon de m'attaquer à une période de l'histoire ou une grande figure, etc., voilà, je me sentirais encore trop cadré par un... malgré tout par la réalité, même si l'uchronie consiste à la déformer, à la faire dévier, mais ça reste une intrigue qui se déroule dans une forme de réalité avec les règles connues de la réalité. Ça me paraissait trop restrictif. Voilà, j'ai pas d'autre façon de le dire. Il faut que j'y ajoute autre chose pour d'autres éléments de pur imaginaire. Voilà.
Alors on a bien compris pourquoi tout à l'heure, dans Grand Siècle, c'est un peu Blaise Pascal qui mène la danse, en tout cas sur l'aspect technologique. Or, moi, je m'attendais à croiser un autre personnage dans cette époque-là. C'est Cyrano de Bergerac.
Ah, alors...
Le vrai, pas celui de la pièce.
Oui, mais justement, mais alors le vrai, je me permets, il est... j'en parle un moment, puisque... Alors, l'année à laquelle je fais débuter ma trilogie, donc 1650, etc., il est mort depuis peu, le vrai Cyrano.
T'es dans une uchronie.
Mais justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, je tenais au début à vraiment respecter la réalité et je l'ai fait évoluer peu à peu. Le vrai Cyrano, donc, est mort depuis peu, d'ailleurs, mais comme un de mes personnages est une jeune femme qui devient d'ailleurs libraire-imprimeur, je rends aussi un hommage au premier libraire-imprimeur à travers ce livre. Eh bien, à un moment, on fait comprendre qu'elle réédite certaines des œuvres de Cyrano, dont le fameux voyage, les empires du soleil, de la lune, enfin, j'ai plus le titre exact en tête, œuvre dans laquelle Cyrano invente quand même le principe de la fusée à étage. Donc voilà, il y a ce petit clin d'œil qui est fait.
C'est vraiment, encore une fois, voilà, utiliser tout ce qui est à disposition dans ce matériau.
Mais parce que l'histoire offre... tellement de je dirais, elle mâche le travail à l'auteur de l'uchronie, parce qu'elle offre tellement de choses merveilleuses. Il suffit juste de tirer un petit peu les fils. Blaise Pascal invente un ancêtre d'ordinateur. Cyrano de Bergerac invente le principe de la fusée étage. Enfin, on voit que quelque part, il manque pas grand-chose pour qu'on arrive à une vraie conquête spatiale.
Il manque une source d'énergie. Or, c'est aussi un des points de divergence dans l'univers. C'est qu'il dispose de cette source d'énergie.
Voilà, le gros point effectivement technique sur lequel je butais, c'est que pour pouvoir s'extraire de la gravité, enfin, il faut une énergie formidable, donc une énorme source d'énergie. Or, bon, à l'époque, on n'avait pas ça. J'ai confié la tâche à Blaise Pascal, il a réfléchi, et c'est un petit peu baroque la façon dont j'explique ça, mais enfin, ça correspond aussi à l'état d'esprit du siècle. Il développe une forme d'énergie qui est une sorte de... Aujourd'hui, on appellerait ça une forme d'électricité, mais d'origine nucléaire, en fait. Voilà. Ils appellent ça l'effluve, ils inventent des machines, des générateurs à effluve.
C'est quasiment des piles nucléaires. Oui.
C'est des mini-piles nucléaires, ce qui pose d'ailleurs des problèmes pour les gens qui les extraient, etc. J'aborde la question aussi. Enfin, les pauvres gens, les galériens qui, en fait, sont envoyés dans les mines du roi, dans les pays de l'Est, pour extraire le minerai qui va alimenter tout ça. Voilà. C'est la forme que j'ai trouvée, la forme d'énergie qui va finir se mettre en place, mais qui du coup va avoir un impact sur la société, parce que cette énergie gratuite, formidable, sans danger, bien sûr, comme chacun le sait, arrive et va révolutionner, bien sûr, les rues. Les gens vont commencer par se chauffer, s'éclairer grâce à cette énergie. C'est peu à peu, au fil des années, que voilà, la société, le Paris encore quasi médiéval, de toute façon du milieu du XVIIe siècle, quoi qu'il en soit, va finir par se transformer en une métropole moderne. Voilà.
Christopher Priest, même dans vos romans, certains des derniers romans qui sont parus chez nous, je pense en particulier à L'Inclinaison, on est dans un univers totalement science-fictif, on est dans un monde totalement imaginaire, et pourtant, on n'est jamais très très loin de l'uchronie. Parce qu'il y a un jeu aussi avec le temps dans ce roman.
I was enjoying that. First of all, I want to say about power. I don't believe in space flight. I don't think it's happening. And I mean, at the moment, I'm still having trouble with heavier-than-air flight.
Je veux juste revenir sur les sources d'énergie. Je ne crois pas à la conquête spatiale. Je ne crois pas que ce soit possible. J'ai déjà du mal à croire aux avions.
Je vous rappelle quand même, Christopher, que vous avez déjà assassiné Tolkien l'année dernière. Ça commence à faire beaucoup, là.
Yes. But Lionel and I have agreed that we're not going to do the silly walk this time.
You remember. Donc Chris dit que nous avons déjà convenu que contrairement aux années précédentes, nous ne referons pas les silly walks des Monty Python cette année.
Yeah. Tout peut arriver.
Yeah, there was a question about the gradual
l'inclinaison.
Difficile for me. I came to terms with the idea years ago that all fiction is essentially metaphorical, and therefore it stands for something else. It always stands for something that the reader will understand, and therefore, in my view, should help the reader see another side to what they already understand. This sounds a bit pretentious, but anyone who's read anything realizes the metaphors are throughout literature. For instance, if a poet mentions a rose, he's talking about a flower, obviously, but a rose is a symbol of something. And so you understand that the flower has a meaning greater than just being a flower. And the world of the Dream Archipelago, which I've written, it's something like four books now, it's not a real world at all. It's not even one that can be made real. It's not even one that I want you to feel is real. It's just sufficiently plausible for the story I'm telling. And you mentioned at the beginning, Christophe, that I'm a world builder. In fact, I'm a world destroyer. I don't agree with this sort of thing. As anyone who was here last year will remember, I don't agree with maps in books. And my loyal interpreter,
I'm an optimistic
who's
person,
written books with maps in, loyally translated my sort of infamy about this subject. The gradual is about, it's about music, and it's about a composer who discovers that he's a serious modernist classical composer. He discovers that somewhere in the world a rock musician has got hold of his tunes and made them into rock anthems. And he's kind of upset about that. And the book is essentially about his search to find that guy and find out why he did it. It's a small subject, but it's a whole novel. And it's the last but one that I wrote, so it's already starting to recede from me.
Alors, si on parle de l'inclinaison, en fait, j'ai fini par accepter une idée qui m'est vue, enfin voilà, que j'ai conceptualisée il y a des années, c'est que toute fiction, en fait, est essentiellement une métaphore, c'est-à-dire qu'elle parle d'autre chose. Et c'est quelque chose que le lecteur comprend, et c'est quelque chose que le lecteur sait. Et mon travail consiste à l'aider et le guider à l'amener à voir justement que ça, le roman parle d'autre chose. Alors ça paraît peut-être assez prétentieux, mais je pense que c'est très clair pour tous les lecteurs. Si vous lisez un poème qui parle d'une rose, bien sûr le poète parle de la fleur, mais avant tout la fleur va être le symbole de quelque chose d'autre, et le lecteur le sait très bien. Alors, si on parle de l'inclinaison, donc qui se passe dans l'archipel du rêve, qui est un monde où j'ai écrit 4 livres maintenant, c'est un monde qui n'est pas réel, qu'on ne pourrait pas rendre réel, et je ne veux pas que vous considériez qu'il puisse être réel quelque part. En fait, c'est juste un cadre plausible pour raconter des histoires. Alors Christophe, vous disiez au début que j'étais un constructeur de monde. Je ne suis pas du tout d'accord, je suis un destructeur de monde. J'ai déjà prouvé l'année dernière que j'aime pas les livres qui ont des cartes. D'ailleurs, j'ai raconté ça en long, en large et en travers, et mon traducteur qui écrit des livres avec des cartes dedans a fidèlement traduit. Et donc l'inclinaison, c'est un livre qui donc parle de musique et c'est sur un compositeur. Ça parle donc il compose de la musique classique et en fait il découvre que quelque part dans l'archipel il y a un musicien de rock qui a récupéré ses airs et en a fait des grandes chansons rock. Et en fait ce livre parle principalement de la quête de ce musicien pour aller essayer de trouver ce musicien de rock en essayant de comprendre pourquoi il a fait ça. Donc ça paraît un sujet extrêmement réduit. Bon, ça quand même donne un roman entier quand même. Bon, alors c'est l'avant-dernier livre que j'ai écrit, donc j'avoue qu'il commence un peu à disparaître dans mon esprit.
Le prochain, pour nous, ce sera en octobre, je crois.
The next one is going to be in October for us. My next novel.
Yeah, in yes, France.
It's called Consequence d'une disparition. Yeah? Can you say it for me?
Conséquence d'une disparition.
Yes, thank you. And it's
when you will not an European, you need to learn French, you know?
I'm sorry?
Well, if you're an European, then you need to learn French.
I'm trying hard. it's a novel about 9/11. And it's not a novel about 9/11, it's a novel about the consequence of 9/11. And if you like, it's what I was saying earlier about Brexit. Brexit was based on a lie. I'm sure everyone here has heard about the lies that were told during the campaign for Brexit. And nevertheless, it went through. More and more lies are being told every day about it. And yet, we're living with the consequence of these lies. And I discovered, as a lot of people already know, that the events of 9/11 are actually explained through a series of lies. And these lies are provable and demonstrable and scientifically testable. And yet, first of all, the myth remains about 9/11, and also we're living with the consequences of it. And to me, this is an important and serious subject, so I decided to write a book about it. And this is coming out we're not sure when, it'll be September or October. At the moment, it's still being translated, and I'm going to be living in Paris for 5 weeks in September or October, and the publisher is hoping to get it out before then.
Donc oui, donc conséquence d'une disparition, c'est un livre autour du 11 septembre. Ça n'est pas un livre sur le 11 septembre, mais sur les conséquences du 11 septembre. Je parlais tout à l'heure du Brexit. Le Brexit s'est construit, a été voté sur la base d'un mensonge. Et je pense que tout le monde a entendu parler des mensonges qui ont été dispersés à ce moment-là. Et malgré tout, ça a été voté. Et depuis, on entend de plus en plus de mensonges qui sont dits autour du Brexit. Et le 11 septembre, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le 11 septembre est expliqué à travers une série de mensonges. Et il y en a des tas qui sont démontrables, comme quoi c'est des mensonges, scientifiquement. Et pourtant, le mythe reste. Et nous vivons avec les conséquences de ces mythes et de ces mensonges. Et ça me semblait être un sujet important à traiter dans un livre. Donc le livre sort en septembre ou en octobre, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il est en cours de traduction. Je vais venir vivre à Paris 5 semaines autour de septembre et octobre, donc l'éditeur espère pouvoir le sortir à ce moment-là.
Johan, ça me fait ce que raconte Christopher me fait venir une question à l'esprit. On a parlé du point de rupture, mais le choix d'une époque, par exemple, particulière, est-ce que c'est un goût en te disant, tiens, il n'y a pas forcément beaucoup de livres sur cette période-là, il y a un peu moins d'embouteillage dans ce secteur.
Pour le dernier exemple en date, Louis XIV, c'était exactement le cas. Je voulais revenir à l'Uchronie, ça faisait un moment que je n'avais pas écrit. Et la première question que je me suis posée, c'est à quelle époque m'attaquer qui n'aurait pas été déjà explorée par mes petits camarades. Et à ma grande surprise, Louis XIV, enfin, dans les littératures de l'imaginaire, évidemment, en roman historique, il est présent partout. Mais
en série télé maintenant.
Mais dans nos littératures à nous, pratiquement pas. Voilà, donc, et comme c'est en plus sans doute le personnage historique français, je pense avec Napoléon, le plus connu, enfin du moins le plus célèbre, connu sur autre chose. Voilà, le grand siècle n'a pas été exploré par la science-fiction, un petit peu par la fantasy. Il y a la série de Guy Gabriel Kay, je crois. Voilà, mais enfin, il y a un ou deux exemples, c'est tout, mais pas en science-fiction. C'est la raison pour laquelle je m'y suis attaché.
Et puis l'autre question, c'est parce que tu écris aussi, et ça on n'en a pas du tout parlé, mais l'Uchronie pour un jeune lectorat. Est-ce que justement là c'est un peu particulier aussi? Est-ce qu'il faut un peu plus de pédagogie, on va dire, que pour un public adulte?
Oui et non. Bah, disons que quand il m'arrive de le faire, voilà, pour adolescents, bah, il faut déjà, enfin, c'est tout bête, il faut déjà juste s'assurer que ses lecteurs ont au moins étudié ces périodes-là durant leur cursus scolaire. C'est que sinon, ça n'a guère de sens, à mon avis. Ou alors, ce serait trop pédagogique. Et avant tout, pour moi, c'est des fictions. Voilà. Alors, j'essaye de simplifier effectivement le fond historique, parce qu'il faut que ça reste un plaisir de lecture pour le jeune lecteur, pour les adultes d'ailleurs. Mais voilà. Non, la seule limite, c'est celle-ci, s'assurer qu'au moins les prérequis sont là.
Oui, parce que contrairement à un univers complètement construit, que ce soit de la fantasy ou de la SF, là, on a normalement, naturellement des repères dans l'histoire.
Exactement, voilà, oui. Oui, tout à fait. C'est ce qui explique que d'ailleurs, assez souvent, c'est par le biais des uchronies que des lecteurs adultes, dont la première action est de dire, voilà, moi, la science-fiction, jamais, enfin, bon, c'est pas des littératures sérieuses, etc.
Il y a encore des gens comme ça
Sur des salons généralistes, je vous assure que j'en rencontre. Non, mais ils sont sympathiques par ailleurs. Mais justement, ils jettent un coup d'œil intéressé aux uchronies. J'ai beau leur dire, mais vous savez, bon, il y a quand même des vaisseaux spatiaux, il y a quand même des extraterrestres qui passent. Malgré tout, ils trouvent rassurant d'avoir un fond historique. Et souvent, ce sont des lecteurs de romans historiques. Et finalement, ça ne leur déplaît pas, le côté amusant de ce qu'on va intégrer en plus. Et ils peuvent venir, du coup, à la science-fiction. Donc, il y a quelque part... Enfin, c'est un but très modeste, mais si je peux ramener quelques lecteurs...
C'est une bonne petite entrée. C'est pas Karine qui nous démentira, hein. Après tout. On voit que c'est effectivement un objectif important. Là, tu es entièrement encore sur le grand siècle, ou déjà il y a des idées qui frétillent?
Alors, bon, j'aurai un troisième et dernier tome de cette trilogie.
Deuxième arrive. Hein,
le deuxième, il est là.
Il est là.
Il est ici. Il est arrivé, voilà, pour les Imaginales. Donc, il y aura un troisième et dernier tome qui paraîtra aux Imaginales l'année prochaine et que je n'ai pas encore écrit, mais je sais quand même ce qui s'y passe. Et en revanche, bon, je profite pour ma petite pub, mon prochain roman adulte qui va paraître en septembre prochain, chez L'Atalante, est une pure uchronie qui s'appelle Frankenstein 1918. Tout est dans le titre, voilà. Première guerre mondiale, Winston Churchill est horrifié par les massacres consécutifs aux premiers engagements de l'armée anglaise en 1915 à Anvers. Enfin, je vous passe les détails, ça est vrai, j'ai vérifié. Et donc, il va prendre la décision d'industrialiser la méthode de régénération du docteur Frankenstein, qui a vraiment existé, bien sûr. Mais les carnets du docteur Frankenstein sont en possession du Home Office anglais. Et en récupérant donc des morceaux de cadavres sur le terrain, ils vont constituer un bataillon de Frankie qui vont aller se battre avec les Tommy. Bien sûr, ça va dégénérer, ça ne va pas se passer comme prévu. Et tout ça va faire dévier l'histoire vers une autre forme de guerre. Enfin, c'est un hommage quand même sérieux aussi au départ à Mary Shelley. Parce que nous fêtons le 200e anniversaire de la publication de ce premier chef-d'œuvre de la science-fiction.
D'où le choix du thème créature pour ces Imaginales 2018. Bah vous voyez, l'automne sera chargé. Hein. On aura deux belles sorties qui arriveront en cette saison. On va remercier et Johan Elliott et Christopher Priest pour leur participation, en espérant vous avoir peut-être donné envie de découvrir l'Uchronie si vous ne connaissez pas encore. Et il y en a bien d'autres qui sont présentes sur les stands de la Bulle du Livre pendant ces quelques jours. Et puis, vous inviter à aller retrouver les auteurs sous la Bulle du Livre. Un grand merci quand même particulier à Christopher. Parce que voilà, on a avec nous depuis quelques années maintenant un monument des littératures de l'imaginaire, et vous constatez à chaque fois sa gentillesse, sa disponibilité, son humour, et on ne peut que vous remercier, Christopher.
And thank you to Lionel.
Et Lionel, évidemment, pour la traduction.